Chapitre 18. Le lendemain, aux premières heures du jour, Robin et Petit-Jean entraient dans une auberge de la petite ville de Nottingham afin d'y prendre leur premier repas. La salle de cette auberge était remplie pour le moment d'une quantité de soldats appartenant, ainsi que l'indiquait leur costume, au baron Fitzhalwin. Tout en déjeunant, les deux amis prêtaient une oreille attentive à la conversation des soldats. « Nous ne savons pas encore, disait un des hommes du baron, à quel genre d'ennemis les croisés ont eu affaire. Sa seigneurie suppose que ce sont des outlaws qui les ont attaqués, ou bien encore des vassaux guidés par un de ses ennemis. Fort heureusement pour monseigneur, son arrivée au château avait été retardée de quelques heures. Les croisés feront-ils un long séjour au château, Geoffroy ? Demanda le maître du logis à celui qui parlait. Non, ils partent demain pour Londres, où ils vont conduire les prisonniers. Robin et Petit-Jean échangèrent un éloquent regard. Quelques paroles indifférentes pour nos deux amis suivirent cette réponse. Puis les soldats continuèrent à boire et à jouer. William est au château, murmura Robin d'une voix presque insaisissable. Il faut ou aller l'y chercher, ou attendre sa sortie. Il faut enfin user de force, de ruse, d'adresse, en un mot, le rendre libre. Je suis prêt à tout, dit Petit-Jean du même ton. Les deux jeunes gens quittèrent leur siège et Robin paya l'hôte. Au moment où les deux amis traversaient le cercle formé par les soldats, afin de gagner la porte, l'individu désigné sous le nom de Geoffroy dit à Petit-Jean « Par Saint-Paul, mon ami, ton crâne me paraît avoir une singulière sympathie pour les solives du plafond, et si ta mère peut te baiser les joues sans te faire agenouiller à ses pieds, elle mérite un grade dans le corps des croisés. » « Ma haute stature offense-t-elle tes regards, sœur soldat ?» répondit Petit-Jean d'un ton de condescendance. « Elle ne m'offense nullement, superbe étranger, mais je dois te dire en toute franchise qu'elle me surprend beaucoup. Jusqu'à présent, je m'étais cru l'homme le mieux découplé et le plus vigoureux du comté de Nottingham. Je suis heureux de pouvoir te donner une visible preuve du contraire, répondit gracieusement Petit-Jean. Je parie un pot d'ale, reprit Geoffroy en s'adressant à l'assemblée, que, en dépit de cette apparence de vigueur, l'étranger serait incapable de me toucher avec un bâton. Je tiens le pari! Cria un des assistants. Bravo! Riposta Geoffroy. Mais en vérité, s'écria à son tour Petit-Jean, tu ne me demandes même pas si j'accepte le défi. Tu ne saurais refuser un quart d'heure de plaisir à celui qui, sans te connaître, a parlé pour toi, dit l'homme qui avait agréé la demande de Geoffroy. Avant de répondre à l'amicale proposition qui m'est faite, répliqua Petit-Jean, je voudrais donner à mon adversaire le léger avertissement que voici. Je ne suis point orgueilleux de ma force, cependant, je dois dire que rien ne lui résiste. Je dois dire encore que vouloir lutter avec moi, c'est vouloir chercher une défaite, quelquefois un malheur, souvent une blessure d'amour-propre. Je n'ai jamais été vaincu. Le soldat se mit bruyamment à rire. Tu es à mes yeux le plus grand fanfaron de la terre, sœur étranger. Cria-t-il d'un ton narquois, et si tu ne veux pas que j'ajoute la qualification de lâche à celle d'orgueilleux, tu vas consentir à te battre avec moi. Puisque vous le voulez absolument, ce sera de tout mon cœur, maître Geoffroy. Mais avant de vous donner les preuves de ma force, permettez-moi de dire quelques mots à mon compagnon. Une fois libre de mon temps, je vous promets de l'utiliser de manière à vous corriger sagement de votre défaut d'impudence. « Tu ne vas pas t'éloigner, au moins ?» demanda Geoffroy d'une voix railleuse. Les assistants éclatèrent de rire. Blessé au vif par cette insolente supposition, Petit-Jean s'élança vers le soldat. « Si j'étais normand, dit le jeune homme d'une voix pleine de colère, je pourrais agir ainsi, mais je suis saxon. Si je n'ai pas accepté sur le champ ton offre belliqueuse, c'est par bonté. Eh bien, puisque tu te moques de mes scrupules, stupide bavard, puisque tu me dégages de toute commisération pour toi, appelle l'hôte, paie ton aile et demande des bandages. Car, aussi vrai que tu donnes le nom de tête à la vilaine bosse qui se balance entre tes deux épaules, tu en auras tout à l'heure grandement besoin. Mon cher Aubin, dit Petit-Jean en rejoignant son ami, arrêté à quelques pas de l'auberge. Rendez-vous dans la maison de Grace May, où, sans nul doute, vous rencontrerez Hall. Il serait dangereux pour vous, et surtout très compromettant pour le salut de Will, que vous fussiez reconnu par un serviteur du château. Je suis obligé de répondre à l'intempestive bravade de ce soldat. La réponse sera courte et bonne, soyez-en bien certain, et allez vous mettre à l'abri de toute fâcheuse rencontre. » Robin obéit à contre-cœur au sage conseil de Petit-Jean, car il va sans dire qu'il eût trouvé un véritable plaisir au spectacle d'une lutte dans laquelle son ami devait facilement triompher. Lorsque Robin eut disparu, Jean rentra dans l'auberge. La réunion des buveurs s'était considérablement augmentée, car la nouvelle d'une bataille entre Geoffroy le Fort et un étranger qui ne lui cédait en rien comme vigueur et comme audace avait déjà traversé la petite ville et appelé les amateurs de ce genre de combat. Après avoir parcouru la foule d'un regard indifférent et tranquille, Petit-Jean s'approcha de son adversaire. « Je suis à ta disposition, sœur Normand, » dit-il. « Et moi, à la tienne, » répondit Geoffroy. Avant de commencer la lutte, ajouta Petit-Jean, je désire connaître la politesse de l'ami généreux qui, sur une habileté inconnue, s'est exposé à perdre un pari. Je veux donc, en réponse à la courtoisie de sa confiance, mettre 5 shillings en jeu et parier que non seulement je te ferai mesurer la terre de toute la longueur de ton corps, mais encore que je te frapperai à la tête avec mon bâton. Celui qui gagnera les 5 shillings offrira des liqueurs à l'aimable assemblée. « J'y consens, » répondit Geoffroy avec gaieté, « et même, j'offre à mon tour de doubler la somme si tu parviens à me blesser ou à me renverser. »« Hourra !» crièrent les spectateurs, qui, dans cet arrangement des choses, gagnaient encore et n'avaient rien à perdre. Tumultueusement accompagnés par la foule, les deux adversaires sortirent de la salle et allèrent se placer en face l'un de l'autre, au centre d'une vaste pelouse dont l'épais tapis convenait admirablement à la circonstance. Les spectateurs formèrent un large cercle autour des combattants et un profond silence succéda au bruit. Petit-Jean n'avait fait aucun changement dans son costume. Il s'était contenté d'enlever ses armes et d'ôter ses gants. Mais Geoffroy avait mis plus de soin dans ses dispositions. Débarrassé de la plus lourde partie de ses vêtements, il se montrait, la taille étroitement serrée, dans un pourpoint de couleur sombre. Les deux hommes s'examinèrent un instant avec une persistante fixité. La figure de Petit-Jean présentait une expression calme et souriante, celle de Geoffroy révélait, en dépit de lui-même, une vague inquiétude. « J'attends !» dit le jeune homme en saluant le soldat. « Je suis à vos ordres, » répondit Geoffroy, avec non moins de politesse. Par un mouvement simultané, les deux hommes se tendirent la main et une étreinte cordiale les réunit pendant une seconde. La lutte commença. Nous n'entreprendrons pas de la décrire, nous dirons seulement qu'elle ne fut pas de longue durée. En dépit des vigoureux efforts d'une énergique résistance, Geoffroy perdit l'équilibre et, par un mouvement d'une force inouïe et d'une adresse jusqu'alors restée sans exemple, Petit-Jean lança son adversaire par-dessus sa tête et l'envoya rouler à 20 pas de lui. Le soldat, exaspéré de cette honteuse défaite, se releva au bruit des clameurs joyeuses de tous les assistants qui criaient en jetant leurs bonnets en l'air « Hurrah ! Hurrah pour le beau forestier !»« J'ai gagné honnêtement la première partie de notre enjeu, sœur soldat, » dit Petit-Jean, « et je suis tout disposé à commencer la seconde. » Pourpre de colère, Geoffroy répondit à cette demande par un signe affirmatif. Les bâtons respectifs des deux hommes furent mesurés et la lutte se continua, plus vive, plus acharnée, plus ardente. Geoffroy fut encore une fois vaincu. Les bravos enthousiastes de la foule célébrèrent les triomphantes prouesses de Jean et un flot d'ailes ruissela dans les verres en l'honneur du beau forestier. « Sans rancune, vaillant soldat, » dit Jean en tendant la main à son adversaire. Geoffroy refusa l'offre amicale qui lui était faite et dit d'un ton amer « Je n'ai besoin ni du secours de votre bras, ni des offres de votre amitié, sœur forestier, et je vous engage à mettre moins d'orgueil dans vos manières. Je ne suis pas homme à supporter tranquillement la honte d'un échec et si les devoirs de mon service ne me rappelaient au château de Nottingham, je vous rendrai coup pour coup les orions reçus. » Voyons, mon brave ami, repartit Jean, qui appréciait à sa valeur le courage réel du soldat, ne te montre ni mécontent ni jaloux. Tu as succombé devant une force supérieure à la tienne, le mal n'est pas grand, et tu trouveras, j'en suis sûr, les moyens de relever ta réputation de vigueur, de sang-froid et d'adresse. Je me fais un plaisir de reconnaître, et permets-moi de le proclamer, que tu es non seulement très fort dans l'art de manier le bâton, mais encore l'athlète le plus difficile à terrasser que puisse désirer un cœur ferme et un bras vaillant. Ainsi, accueille sans arrière-pensée l'offre de ma main. Elle t'est tendue avec une loyauté pleine de franchise. » Ces paroles, prononcées avec une expression de réelle bienveillance, parurent émouvoir le rancunier normand. « Voici ma main, » dit-il en la présentant au jeune homme. « Elle demande à la tienne une étreinte d'amis. » « Maintenant, bon jeune homme, » ajouta Geoffroy d'une voix doucereuse, « accorde-moi la grâce de connaître le nom de mon vainqueur. » « Je ne puis pour le moment accorder ce que tu me demandes, maître Geoffroy. Plus tard, je me ferai mieux connaître. » « J'attendrai ton bon plaisir, étranger. Mais avant de te laisser sortir de cette auberge, je crois qu'il est de mon devoir de te confier qu'en me qualifiant de normand, tu commets une erreur. Je suis saxon. » « Ma foi, répondit gaiement Petit-Jean, je suis très enchanté d'apprendre que tu appartiens à la plus noble race du sol anglais. » Ceci redouble l'estime et la sympathie que tu m'inspires. Nous nous reverrons bientôt et je serai avec toi plus communicatif et plus confiant. Maintenant, au revoir. Les affaires qui m'ont appelé à Nottingham exigent mon départ. » Comment ? Tu songes déjà à me quitter, noble forestier ? Je ne le souffrirai pas. Je vais t'accompagner là où tu as besoin de te rendre. » « Je vous en prie, sœur soldat, laissez-moi la liberté d'aller rejoindre mon compagnon. J'ai déjà perdu un temps précieux. » La nouvelle du départ de Petit-Jean courut de bouche en bouche et elle souleva un véritable tumulte. Vingt voix prièrent. « Étranger, nous allons te suivre. Nous voulons proclamer partout ta grandeur d'âme et ta vaillance. » Fort peu désireux de recevoir les témoignages menaçants de cette soudaine popularité, Petit-Jean, qui voyait approcher avec une réelle crainte l'heure fixée pour son rendez-vous avec Robin, dit vivement à Geoffroy « Veux-tu me rendre un service ?»« De tout mon cœur. »« Eh bien, aide-moi à me débarrasser honnêtement de ces braillards d'ivrognes. Je désire pouvoir m'éloigner sans attirer l'attention. » « Très volontiers, » répondit Geoffroy. Puis il ajouta, après un instant de réflexion, « Il n'y a pour réussir qu'un seul moyen à employer. »« Lequel ?»« Voici, accompagne-moi au château de Nottingham, ils n'oseront pas nous suivre au-delà du pont-levis. De l'intérieur du château, je te conduirai à un chemin désert qui, par une voie détournée, te ramènera à l'entrée de la ville. » « Comment ? » s'écria Petit-Jean. « Il n'est pas possible de trouver un autre moyen pour me délivrer de la compagnie de ces imbéciles. » « Je n'en vois pas d'autre. Tu ne connais pas, mon homme, la sotte vanité de ces bavards. Ils te feraient cortège, non pour toi-même, mais pour être vu en ta compagnie et afin de pouvoir dire à leurs voisins, à leurs parents, à leurs connaissances, « J'ai passé 2 heures avec le vaillant garçon qui a battu Geoffroy le Fort. Il est de mes amis, nous sommes entrés en ville ensemble il y a quelques instants. D'ailleurs, vous avez dû me voir, j'étais à sa droite ou à sa gauche, etc., etc. » Petit-Jean se vit, bien à contre-cœur, obligé de suivre le conseil que lui donnait Geoffroy. « J'accepte ta proposition, lui dit-il. Éloignons-nous sans retard. Je suis à vous dans une seconde. » « Mes amis, cria Geoffroy, il faut que je rentre au château. Ce digne forestier m'y accompagne. Je vous prie donc de nous laisser tranquillement sortir. S'il arrive que l'un de vous se permette de nous suivre, même à une distance de 20 pas, je regarderai sa démarche comme une insolente bravade et, par Saint-Paul, je l'en ferai cruellement repentir. » « Mais, hasarda une voix, ma maison se trouve sur le chemin que vous allez suivre et je suis obligé de rentrer chez moi. » « Tu n'y seras obligé que dans 10 minutes, repartit Geoffroy. Ainsi, bonjour à tous et amitié à chacun. » Cela dit, Geoffroy sortit de la salle et un formidable hurrah accompagna Petit-Jean jusqu'au seuil de la porte. Ce fut ainsi que Petit-Jean pénétra dans la seigneuriale demeure du baron Fitz-Adouine. Après avoir quitté Petit-Jean, Robin s'était dirigé vers la demeure de Grace Semet. La jolie fiancée de Hall était une inconnue pour Robin, en ce sens qu'il n'avait jamais autrement que par les yeux de son jeune ami admiré les charmes de la belle enfant, et si nous devons parler avec le cœur de Robin, il est nécessaire d'ajouter qu'un sentiment de vive curiosité l'attirait vers la maison de Grace Semet. Il frappa longtemps à la porte sans attirer la moindre attention. Puis, fatigué d'attendre, il se prit à chantonner à mi-voix le refrain d'une romance qui lui avait été apprise par son père. Au premier murmure de ce chant mélancolique, un pas vif et précipité réveilla l'écho endormi de la vieille maison, et la porte brusquement ouverte donna passage à une jeune demoiselle qui, sans prendre le temps de regarder le visiteur, s'écria d'un ton joyeux « Je savais bien, mon cher Hall, que vous viendriez ce matin. J'ai dit à ma mère... » « Ah, pardon, messire !» ajouta la vive jeune fille, qui n'était autre que Grace, mais... « Pardon, mille fois !» Tout en adressant ses excuses à Robin, Grace rougissait jusqu'au blanc des yeux, et la vivacité irréfléchie de ses mouvements motivait cette rougeur, car elle s'était jetée dans les bras de Robin. « C'est à moi, mademoiselle, répondit le jeune homme d'une voix très douce, de vous demander pardon de n'être pas celui que vous attendez. » Confuse et embarrassée, Grace Semet ajouta « Puis-je savoir, messire, à quelle cause je dois attribuer l'honneur de votre visite ?»« Mademoiselle, répondit Robin, je suis un ami d'Albert Lindsay et je désire le voir. Un motif sérieux, et qu'il serait trop long de vous expliquer, ne me permet pas d'aller chercher Hall au château. Je vous serais donc fort obligé, si vous vouliez m'accorder la permission, d'attendre ici sa venue. » Très volontiers, messire. Les amis de Hall sont toujours des hôtes choyés dans la maison de ma mère. Entrez, je vous prie. Robin s'inclina courtoisement devant Grace et pénétra avec elle dans une vaste salle du rez-de-chaussée. « Avez-vous déjeuné, messire ?» demanda la jeune fille. « Oui, mademoiselle, je vous remercie. Permettez-moi de vous offrir un verre d'ale, nous en avons d'excellentes. J'accepte, afin d'avoir le plaisir de boire au bonheur de Hall, mon heureuse amie, » dit galamment Robin. Les yeux de la jolie Grace étincelèrent de gaieté. « Vous êtes courtois, messire, » dit-elle. « Je suis un sincère admirateur de la beauté, miss, rien de plus. » La jeune fille rougit. « Venez-vous de loin ? » demanda-t-elle, comme pour donner un cours à la conversation. « Oui, mademoiselle, j'arrive d'un petit village qui est situé dans les environs de Mansfeld. » « Du village de Gamwell ? » ajouta vivement Grace. « Précisément, vous connaissez ce village ? » interrogea Robin. « Oui, messire, répondit la jeune fille en souriant, je le connais parfaitement bien, et cependant, je n'y suis jamais allée. » « Comment se fait-il alors ? » ?»« Oh, c'est bien simple, la sœur de Lady Albert, Miss Maud de Lindsay, habite le château de Sir Guy. Albert va très souvent rendre visite à sa sœur, et au retour, il me parle d'elle, il me raconte les nouvelles du pays. « Il m'apprend ainsi, ajouta gracieusement la jeune fille, à connaître et à aimer les hôtes de Sir Guy. Parmi ces hôtes, il y en a un dont Albert me parle avec beaucoup d'amitié. Lequel ? Demanda le jeune homme en riant. Vous-même, messire, car si ma mémoire est fidèle, je puis en toute confiance vous saluer du nom de Robin Hood. Hall m'a fait de vous un portrait si ressemblant qu'il est impossible de s'y tromper. Il m'a dit, continua avec volubilité la vive jeune fille, Robin Hood est grand, bien fait, il a de grands yeux noirs, des cheveux magnifiques, un air noble. » Un sourire de Robin arrêta l'expansive description de Grace Semet. Elle se tut et baissa les yeux. Le bon cœur de Hall lui a donné, relativement à moi, une grande indulgence d'appréciation, mademoiselle. Mais il a été plus sévère à votre égard et je m'aperçois que tout ce qu'il m'a dit de vous manque de vérité. Il n'a cependant rien dit qui puisse me blesser, j'en suis certaine, repartit Grace avec cette admirable confiance de l'amour partagé. Non, il m'a dit que vous étiez une des plus charmantes personnes de tout le comté de Nottingham. Et vous n'avez pas ajouté foi à sa parole ? Pardonnez-moi, mais je viens de m'apercevoir que j'avais eu le grand tort d'y croire. Eh bien, s'écria gaiement la jeune fille, je suis enchantée de vous entendre parler sincèrement. Très sincèrement, je vous disais tout à l'heure que Hall s'était montré sévère à votre égard. J'ai ajouté qu'en vous nommant une des plus charmantes femmes de tout le comté, Hall était dans son tort. Oui, messire, mais il faut pardonner l'exagération à un cœur favorablement prévenu. Il n'y a pas d'exagération, mademoiselle, il y a aveuglément, car vous n'êtes pas une des plus jolies femmes de tout le comté, mais bien la plus jolie. Grace se mit à rire. « Permettez-moi, repartit-elle, de ne voir dans vos paroles qu'une bienveillante galanterie, et je suis sûre que si j'avais la folie de les croire sincères, vous penseriez que je suis une petite sotte. Maud Lindsay est d'une beauté accomplie. Au-dessus de Maud, il y a au château de Gamwell une jeune dame que bien certainement vous trouvez 100 fois plus jolie que Maud, 1000 fois plus jolie que moi. » Seulement, messire, vous êtes aussi discret que vous êtes galant et vous n'osez dire ouvertement ce que vous pensez. Je ne redoute jamais de parler avec franchise, mademoiselle, répondit Robin, et je dis la vérité en vous assurant que vous êtes, dans votre genre de beauté, supérieur à toutes les jeunes filles de Nottingham. La jeune dame à qui vous faites allusion a, comme vous, droit au premier rang dans le type de son gracieux visage. Mais il me semble que notre conversation aborde la flatterie, ajouta Robin, et je ne veux pas que mon ami Hall puisse m'accuser de vous faire des compliments. Vous avez raison, messire, causons en amis. C'est cela. Eh bien, Miss Grace, répondez franchement à la question que je vais vous adresser. Comment se fait-il que, sans prendre même le temps de regarder mon visage, vous vous soyez jeté dans mes bras ? « Votre question est tout à fait embarrassante, sœur Robin, dit Grace. Je vais cependant y répondre. Vous fredonniez un air qui est toujours dans la bouche de Hall, et, naturellement, j'ai cru reconnaître sa voix. Hall est un ami d'enfance, nous avons pour ainsi dire été élevés ensemble sur les genoux de ma mère. J'ai, avec Hall, des familiarités de sœur, nous nous voyons tous les jours. Cela vous explique pourquoi je me suis montrée si vive. Excusez-moi, je vous prie. » « Comment donc, Miss Grace, vous n'avez nullement besoin de vous excuser. Maintenant que j'ai eu le plaisir de vous voir, je suis prête à envier le bonheur de Hall et je ne m'étonnerai plus désormais de l'entendre crier qu'il est le plus heureux garçon de la terre. » « Sir Robin, reprit gaiement la jeune fille, je vous prends une fois encore en flagrant délit de mensonge. Ce bonheur que vous êtes si près d'envier, vous ne l'échangeriez pas pour celui qui est le mobile de toutes vos espérances. » « Ma charmante Grace, répondit tranquillement Robin, lorsqu'il arrive à un homme ou à une femme de placer son affection dans un cœur honnête, il ne l'y reprend jamais, et je suis certain que, s'il me venait à l'esprit de chercher à supplanter Albert dans votre cœur, vous ne voudriez pas de moi. »« Oh non !» riposta naïvement Grace. « Mais, ajouta-t-elle en riant, je ne voudrais pas révéler à Albert le fond réel de ma pensée, il en serait trop fier. » La conversation, aussi joyeusement commencée, se prolongea encore pendant 1 heure. « Il me semble, dit tout à coup Robin, que Hall se fait attendre. Les amoureux sont toujours impatients et précèdent d'ordinaire l'heure du rendez-vous. »« Et c'est bien naturel, n'est-ce pas, messire ?» dit Grace. « Très naturel. » Enfin, un coup de marteau retentit à la porte. L'air chanté par Robin se fit entendre et Grace, après avoir jeté au jeune homme un regard qui semblait lui dire « Vous le voyez, mon erreur était bien pardonnable !» s'élança rapidement à la rencontre du nouveau venu. La présence de Robin n'empêcha point la pétulante demoiselle de gronder Hall sur l'heure tardive de son arrivée et de l'embrasser en boudant un peu. « Comment vous ici, Robin ?» s'écria Hall. « Et Maud, ma chère sœur Maud, donnez-moi des nouvelles de sa santé. » Maud est un peu souffrante. J'irai la voir. Son mal n'a rien de grave.
Rien, absolument.
J'espérais vous rencontrer ici, reprit Albert. J'ai su, ou plutôt j'ai deviné, que vous étiez venu à Nottingham, et voici de quelle manière. En allant faire à la ville une commission pour le château, j'ai appris qu'un combat au bâton allait avoir lieu entre Geoffroy le Fort, vous le connaissez, Grace, et un forestier. Aussitôt, la pensée m'est venue d'aller prendre ma part de plaisir à cette petite fête.
Tandis que je vous attendais, monsieur,
dit Grace en allongeant d'un air boudeur ses jolies lèvres roses. Je n'avais pas l'intention de rester plus d'une minute au nombre des spectateurs. Je suis arrivée sur le terrain au moment où Petit Jean lançait Geoffroy par-dessus sa tête, Geoffroy le Fort, Geoffroy le Géant, ainsi que nous le nommons au château. Songez donc, Grace, quel magnifique coup de main! Je voulais demander de vos nouvelles à Jean. Impossible de l'aborder. Alors j'ai parcouru la ville et, à bout de ressources pour ma recherche mystérieuse, je suis allée vous demander au château.
Au château ? S'écria Robin. Vous m'y avez demandé par mon nom ?
Non, non, rassurez-vous. Le baron est revenu hier et si j'avais eu la sottise de révéler votre présence sur ces terres, vous seriez traqué comme une bête fauve. Mon cher Hal, ma crainte était un véritable enfantillage. Je sais que vous êtes prudent et que vous savez garder un secret. Le but de mon voyage était d'abord de me rencontrer avec vous, puis ensuite de vous demander des renseignements sur les prisonniers qui se trouvent au château. Vous savez sans doute ce qui s'est passé cette nuit dans la forêt de Sherwood.
Oui, je le sais, le baron est furieux.
Tant pis pour lui. Revenons aux prisonniers. Parmi eux se trouve un garçon que je veux sauver à tout prix, William l'Écarlate.
William ? S'écria le jeune homme. Et comment se trouvait-il mêlé à la bande de proscrits qui a attaqué les croisés ?
Mon cher Hal, répondit Robin, il n'y a pas eu rencontre avec des proscrits, mais bien avec de braves garçons qui ont eu le tort d'agir sans discernement et de croire s'attaquer non à des croisés, mais bien au baron Fitzalwin et à ses soldats.
C'était vous ? S'écria le pauvre Hal, péniblement surpris.
Robin fit un signe affirmatif.
Alors je comprends tout. C'est de votre adresse dont parlent les croisés en disant qu'un homme de la bande envoyait la mort au bout de chacune de ses flèches. Ah, mon pauvre Robin, le résultat de cette bataille est bien malheureux pour vous.
Oui, Hal, bien malheureux, répéta Robin avec tristesse, car mon pauvre père a été tué.
Mort, le digne Gilbert ? Dit Hal d'une voix pleine de larmes.
Ah, mon Dieu ! Un instant de silence laissa les jeunes gens absorbés dans leur commune douleur. Grace ne souriait plus, elle était navrée du chagrin de Hal et du désespoir de Robin.
Et ce cher Will est tombé entre les mains des soldats du baron, reprit Albert, afin de ramener l'esprit de Robin sur le sort de son ami.
Oui, répondit Robin, et je suis venu vous trouver, mon cher Hal, dans l'espoir que vous voudriez bien me prêter votre aide pour entrer au château. Je ne m'éloignerai de Nottingham qu'après avoir rendu la liberté à Will.
Comptez sur moi, Robin, répondit vivement le jeune homme. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour vous être d'un bon secours dans cette douloureuse circonstance. Nous allons nous rendre au château. Il me sera facile de vous y faire entrer. Mais, une fois dans l'intérieur, il faudra veiller sur vous-même, prendre patience et vous montrer prudent. Depuis que le baron est revenu, l'existence est un véritable enfer pour nous tous. Il crie, il jure, il va, il vient et nous accable de sa présence.
Lady Christabel est-elle revenue avec lui ?
Non, il n'a amené que son confesseur. Les soldats qui l'ont accompagné sont des étrangers.
Vous n'avez rien appris sur le sort d'Alan Clare ?
Pas un mot. Il n'y a personne au château à qui on puisse demander des nouvelles. Quant à Lady Christabel, elle est en Normandie et selon toute probabilité dans une maison religieuse. Il est donc fort à présumer que Messire Alan se tient aux environs de ce couvent.
C'est à peu près une chose certaine, répondit Robin.
Pauvre Alan, son fidèle amour sera récompensé, je l'espère. Oui, ajouta Grace, il est une providence pour les amoureux.
Je me confie à la bonté de cette douce providence, s'écria Albert en jetant un tendre regard à sa fiancée.
Et moi aussi, dit Robin, le cœur ému au souvenir de Marianne.
Cher Robin, reprit Al, s'il nous est possible de faire quelque chose pour sauver William, il faut le tenter ce soir même. Les prisonniers doivent partir pour Londres au milieu de la nuit afin d'y être jugés et condamnés selon le bon plaisir du roi.
Allons, hâtons-nous, hâtons-nous. J'ai promis à Petit-Jean d'aller l'attendre à l'entrée du pont-levis du château.
Grace, ma très chère, dit Al d'un air craintif, vous ne me gronderez pas demain de vous avoir si promptement quitté aujourd'hui.
Non, non, Al, vous pouvez être tranquille. Allez avec courage au secours de votre ami et ne pensez pas à moi. Je vais prier le ciel de vous venir en aide.
Vous êtes la meilleure et la plus aimée des femmes, très chère Grace, dit Al en baisant les joues vermeilles de sa fiancée.
Robin salua gracieusement la jeune fille et les deux amis s'élancèrent d'un pas rapide dans la direction du château.
En effet, répondit Robin, c'est bien Petit-Jean. Que veut dire cette apparente intimité ?
Je parie ma tête, répondit Al, que Geoffroy s'est pris pour Petit-Jean d'une soudaine amitié et qu'il l'emmène au château avec l'intention de lui offrir à boire. Geoffroy est un excellent garçon, mais il est très imprudent. Il n'est au service du baron que depuis fort peu de temps et il y aura du tapage s'il se livre trop légèrement au plaisir de vider des bouteilles.
Nous pouvons avoir toute confiance en la sobriété habituelle de Petit-Jean, répondit Robin. Il maintiendra son compagnon dans les limites raisonnables.
Faites attention, Robin, dit vivement Al. Petit-Jean nous a aperçus, il vient de vous adresser un signal.
Robin dirigea ses yeux du côté de son ami.
Il me conseille de l'attendre, répondit Robin. Il va au château. Mais je vais lui faire comprendre que je vous accompagne et que nous nous rencontrerons dans l'intérieur de quelques cours.
Très bien, vous allez me suivre à l'office, je dirai que vous êtes un de mes amis. Là, nous tâcherons de découvrir, par le bavardage des soldats, dans quelle partie du donjon sont enfermés les prisonniers et le nom de celui qui a mission de veiller sur eux. S'il nous arrive de pouvoir dérober les clés du château, nous mettrons William en liberté. Mais pour sortir, il sera absolument nécessaire de traverser une fois encore les souterrains. Arrivé dans la forêt,
je leur permets de nous poursuivre et même de nous atteindre s'ils peuvent réussir, s'écria gaiement Robin.
Le pont-levis s'abaissa à l'appel de Hal et Robin se trouva bientôt dans l'intérieur du château de Nottingham.